Chapitre 6. La thermodynamique pour les nuls. Partie 1. La Food and Drug Administration, les autorités américaines de santé, a déclaré vouloir lancer à l'intention des consommateurs une campagne d'éducation autour de la notion centrale de « calcul des calories ». Après avoir, durant des années, fait la promotion des régimes hypolipidiques, elle souhaite désormais dispenser un nouveau message scientifique. Un message en réalité fort ancien et constant, et qui est que tout individu qui consomme plus de calories qu'il n'en dépense prend du poids. Nul ne peut se soustraire au principe de la thermodynamique. The New York Times, 1er décembre 2004. Nul ne peut se soustraire au principe de la thermodynamique. Voilà en effet un message fort ancien et constant, car depuis le début des années 1900, période à laquelle le spécialiste allemand du diabète Carl von Norden commença à assurer que l'on prenait du poids lorsque l'on absorbait davantage de calories que l'on en dépensait, spécialistes et non-spécialistes n'ont cessé de soutenir avec force que cette affirmation découlait logiquement des lois de la thermodynamique. Toute personne avançant le contraire, c'est-à-dire que l'on grossit en réalité pour des raisons autres que la suralimentation et les habitudes sédentaires, ou que l'on peut perdre du poids sans décider consciemment de manger moins et ou de bouger plus, passe depuis lors immanquablement pour un charlatan répandant des théories irrationnelles et infondées, pour reprendre les termes utilisés dans les années 1950, par un médecin de l'Université de Columbia, John Taggart, dans son discours d'introduction à un symposium sur l'obésité. Ce même John Taggart ajoutait « Nous croyons implicitement en la validité du premier principe de la thermodynamique. Cette croyance est légitime, mais cela ne signifie pas pour autant qu'en matière de prise de poids, il soit plus pertinent de s'en référer au principe de la thermodynamique qu'à n'importe quelle autre loi de la physique. Les lois du mouvement de Newton, la relativité d'Einstein, les lois de l'électrostatique ou la mécanique quantique décrivent toutes des propriétés de l'univers que nul ne met plus en doute de nos jours. Mais elles n'expliquent pas pour autant pourquoi nous grossissons. Et il en va de même des principes de la thermodynamique. Il est stupéfiant de constater à quel point des conclusions scientifiques fausses ont pu être engendrées par l'incapacité des spécialistes à comprendre ce simple fait, donnant lieu à des recommandations erronées, puis à un fort développement de l'obésité. La notion même d'une relation de cause à effet entre déséquilibre calorique et prise de poids n'existerait pas sans la croyance selon laquelle elle, cette notion, est garantie par les principes de la thermodynamique. Lorsque les experts écrivent que l'obésité résulte d'un trouble de l'équilibre énergétique, une affirmation présente sous une forme ou une autre dans la plupart des publications techniques traitant de ce sujet, c'est une façon synthétique de dire que leur point de vue découle logiquement des principes de la thermodynamique. Et pourtant, ce n'est pas le cas. L'obésité ne résulte pas d'un trouble de l'équilibre énergétique, et elle n'est aucunement régie par les principes de la thermodynamique. Il est essentiel que nous comprenions cela pour nous affranchir des explications conventionnelles de la prise de poids et ainsi éviter le piège séculaire dans lequel nous cherchons précisément à ne pas tomber. Les principes de la thermodynamique sont au nombre de trois, mais seul le premier est considéré par les spécialistes comme déterminant les raisons de l'embonpoint. Également appelé principe de conservation de l'énergie, il affirme que l'énergie ne se crée ni ne se perd, mais se transforme toujours. Par exemple, lors de l'explosion d'un bâton de dynamite, l'énergie potentielle contenue dans les liaisons chimiques de la nitroglycérine se transforme en chaleur et en énergie cinétique. Toute matière, nos tissus graisseux, nos muscles, nos os, nos organes, les planètes, les étoiles, monsieur et madame tout le monde, etc., étant composés d'énergie, on peut reformuler ce premier principe en disant qu'on ne peut pas produire quelque chose à partir de rien, ni produire du rien à partir de quelque chose. Monsieur Tout-le-Monde, par exemple, ne saurait voir sa masse corporelle augmenter, à la fois en volume et en poids, sans absorber plus d'énergie qu'il n'en dépense, pour la raison qu'un Monsieur Tout-le-Monde gros et lourd contient plus d'énergie qu'un Monsieur Tout-le-Monde mince et léger. Pour que sa masse corporelle augmente, Monsieur Tout-le-Monde doit consommer plus d'énergie qu'il n'en dépense, et il ne peut mincir et perdre du poids qu'en dépensant plus d'énergie qu'il n'en absorbe. L'énergie se conserve. Voilà ce que nous apprend le premier principe de la thermodynamique. Or, tout ce que dit le premier principe, c'est que lorsqu'un objet gagne ou perd en masse, il faut que l'énergie qui le pénètre soit respectivement plus ou moins importante que celle qui le quitte. Par contre, ce principe ne dit rien des raisons pour lesquelles cela se produit. Il n'avance pas la moindre relation de cause à effet. Il ne nous dit pas pourquoi quoi que ce soit se produit, il dit simplement ce qui doit se passer pour que ce phénomène précis se produise. Les spécialistes de la santé pensent que le premier principe de la thermodynamique explique les raisons pour lesquelles on grossit, parce qu'ils pensent, à l'instar du New York Times, qu'une personne qui absorbe plus de calories qu'elle n'en dépense prend du poids, ce qui est vrai. Pour grossir et prendre du poids, nous devons nous suralimenter, consommer davantage de calories que nous n'en dépensons. C'est un fait. Mais la thermodynamique ne dit rien des raisons pour lesquelles cela se produit, des raisons pour lesquelles nous absorbons plus de calories que nous n'en dépensons. Elle dit uniquement qu'en faisant cela, nous prenons du poids, et que si nous prenons du poids, c'est que nous avons fait cela. Supposons un instant qu'au lieu de parler de la raison pour laquelle nous grossissons, nous parlions de la raison pour laquelle une pièce se remplit de monde. Dans ce cas, l'énergie dont il s'agit est contenue dans des individus entiers, et pas seulement dans leurs tissus adipeux. 10 personnes contiennent tant d'énergie, 11 en contiennent davantage, et ainsi de suite. Maintenant, ce que nous souhaitons savoir, c'est la raison pour laquelle la pièce est bondée et à ce point saturée d'énergie, c'est-à-dire de gens. Si vous me posiez la question et que je vous réponde « c'est parce qu'il y a plus de personnes qui sont entrées dans la pièce que de personnes qui en sont sorties », vous penseriez sûrement soit que je suis en train de faire le malin, soit que je suis un parfait crétin. Évidemment qu'il y a plus de personnes qui sont entrées que de personnes qui sont sorties, diriez-vous. Ça ne fait aucun doute. Mais pour quelle raison? Car dire qu'une pièce est bondée parce qu'il y a plus de personnes qui y sont entrées que de personnes qui en sont sorties est un pléonasme et ne mène donc à rien. Maintenant, si j'empruntais la logique des idées reçues sur l'obésité pour vous répondre, je vous rétorquerais « Eh bien, c'est que les pièces dans lesquelles il entre plus de gens qu'il n'en sort sont plus bondées que les autres. » Nul ne peut se soustraire au principe de la thermodynamique. Et vous, d'accord, mais qu'est-ce que ça nous apporte? Car vous attendez toujours une explication causale, tandis que je me suis contenté de vous rabâcher une évidence. Ce petit dialogue fictif illustre ce qui arrive lorsque l'on fait appel à la thermodynamique pour conclure que manger trop fait grossir. La thermodynamique nous apprend que si quelqu'un grossit et prend du poids, c'est qu'il entre plus d'énergie dans son organisme qu'il n'en sort. Manger trop signifie consommer plus d'énergie que l'on en dépense. C'est la même chose, mais dite sous une forme différente. Or, sous aucune des deux formes, cette assertion ne répond à la question du pourquoi. Pourquoi absorbe-t-on plus d'énergie que l'on en dépense? Pourquoi mange-t-on trop? Pourquoi prend-on du poids? Élucider le pourquoi donne accès aux causes réelles du phénomène. Sur son site internet, le National Institute of Health, l'Institut national de santé, affirme « L'obésité apparaît lorsqu'une personne absorbe plus de calories alimentaires qu'elle n'en brûle. » En utilisant un terme tel qu'apparaît, les experts de l'Institut ne disent pas vraiment que la suralimentation est la cause, mais seulement une condition nécessaire de l'obésité. Techniquement, leur affirmation est correcte, mais j'ai envie de leur répondre « D'accord, mais qu'est-ce que ça nous apporte ? » Ne pourriez-vous pas nous apprendre pourquoi l'obésité apparaît, au lieu de nous dire ce qui se passe d'autre lorsqu'elle apparaît ? La forte majorité d'experts qui déclarent que nous grossissons parce que nous mangeons trop fait une erreur qui, si elle était commise dans un cours de sciences du secondaire, serait sans doute sanctionnée par une mauvaise note. Cette erreur, qui était déjà relativement répandue dans la première moitié du XXe siècle, s'est aujourd'hui généralisée. C'est ailleurs qu'il va nous falloir chercher les réponses à la question de savoir pourquoi on prend du poids. Je propose de débuter nos recherches en nous fondant sur un rapport du National Institute of Health datant de 1998. Concernant les facteurs possibles de l'obésité, les experts de cet organisme étaient à l'époque un peu plus ouverts et leur approche en conséquence un peu plus scientifique qu'aujourd'hui. Ils déclaraient par exemple que l'obésité est une maladie chronique complexe, multifactorielle, qui se développe conséquemment à une interaction entre génotype et milieu, et reconnaissaient notre compréhension de la façon dont et des raisons pour lesquelles l'obésité se développe est incomplète, mais elle implique l'intégration de facteurs sociaux, comportementaux, culturels, physiologiques, métaboliques et génétiques. Peut-être les réponses que nous cherchons se trouvent-elles dans cette intégration de différents facteurs, à commencer par les facteurs physiologiques, métaboliques et génétiques, qui devraient, dans un deuxième temps, nous mener aux déclencheurs environnementaux. Car une chose est sûre, Pour juste qu'il soit par ailleurs, les principes de la thermodynamique n'expliquent en rien pourquoi on grossit, ni pourquoi on absorbe plus de calories qu'on en dépense au moment où cela se produit.